Yves Collin dirige la communication de la Fondation Abbé Pierre. Alors si vous ne connaissez pas l'Abbé Pierre, je vous conseille d'aller jeter un œil sur Google. Vous allez découvrir un homme qui est mort à 94 ans, qui est un ancien résistant, un ecclésiastique, et vous allez voir qu'il a fondé Emmaüs, plein d'autres associations, et que ce fut un très grand homme. Alors, pour diriger la communication de la Fondation Abbé Pierre, il fallait un autre grand homme, et c'est justement Yves. Yves n'est pas un directeur de la communication comme les autres. C'est un homme engagé, c'est un combattant. Quand je parle de combat, ne vous méprenez pas. Yves défend une très noble cause, les mal logés. Alors, si vous avez la fibre humaniste, si vous avez envie d'entendre un très grand directeur de la communication, d'ailleurs directeur artistique de formation, eh bien écoutez ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Je suis Laurent François, fondateur de l'agence Maverick. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Et n'oubliez pas, non seulement de faire un don à la Fondation Abbé Pierre, mais aussi de mettre 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Très bonne écoute, en compagnie de Yves Collin, directeur communication de la Fondation Abbé Pierre.
Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
Salut Yves.
Bonjour. Comment ça va?
Ça va pas mal.
Bah écoute, je te remercie de m'accueillir à la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui.
Plaisir.
Nous sommes fin novembre. Il fait très beau à Paris.
Il fait très beau pour les sans-abri surtout, mais pour tous les autres aussi. On rentre dans l'hiver, donc c'est une période un peu difficile pour certains.
Évidemment, alors l'hiver, quand on parle de l'Abbé Pierre, on pense immédiatement à l'hiver 54.
On peut y penser, ouais, mais chaque année il y a un hiver.
Malheureusement, oui. Alors, pourquoi je te dis ça? Moi, j'ai découvert l'Abbé Pierre quand j'étais adolescent, en voyant le film Hiver 54 avec Lambert Wilson et avec le chanteur de Trust, Bernie Bonvoisin, qui joue Castin. Je suis très fan de Trust. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Abbé Pierre. Tu vois, c'est par des truchements plutôt artistiques. Toi, aujourd'hui, tu es directeur de la communication de la Fondation Abbé Pierre. Yves, est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît?
Absolument, je suis là depuis 2007, donc ça commence à faire un bail. La Fondation Abbé Pierre est une organisation relativement récente, puisqu'on célébrera prochainement ses 30 ans, dans quelques mois. Elle a été créée en 1992 par l'Abbé Pierre et quelques autres, afin notamment que le combat de l'Abbé Pierre lui survive, puisqu'il sentait sa fin de vie arriver. C'est quelqu'un qui est néanmoins mort très âgé, puisqu'il avait 94 ans au moment de son décès. Néanmoins, il avait anticipé cette nécessité que son combat ne s'arrête pas avec lui. Donc, il a créé la Fondation. Après avoir créé énormément d'autres associations, il a créé la Fondation pour incarner l'héritage de ce combat et pour poursuivre, finalement, au quotidien, ce combat-là.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, le combat de l'Abbé Pierre? Parce qu'on se dit, ok, c'est un homme qui a été député, qui a été résistant, qui a été évidemment ecclésiastique. Est-ce que tu peux nous dire son combat? Parce que c'est pas uniquement l'hiver 54, comme tu l'as très justement dit, et mea culpa, tous les ans, il y a des hivers. Il y a des gens qui meurent encore dans la rue, malgré l'appel qui a 70 ans quasiment. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, en quelques mots, le combat de l'Abbé Pierre?
Alors l'Abbé Pierre, c'est d'abord hiver 54, hein. C'est-à-dire que cet appel, ce jour-là, le 1er février, c'était un appel parce que des gens mouraient à la rue, notamment une femme qui avait été retrouvée avec un avis d'expulsion à la main encore, et qui était retrouvée morte au boulevard Sébastopol. L'Abbé Pierre a donc fait cet appel pour les sans-abri, les sans-logis, comme on disait à cette époque-là. Il l'a fait... Et chose rare, parce que c'est pas courant dans l'écosystème Abbé Pierre, il a tendu la main. C'est-à-dire qu'il a fait la manche, il a demandé aux gens de l'aider. Et il s'en est suivi ce que d'aucuns ont appelé une insurrection de la bonté, c'est-à-dire un geste de solidarité de la nation absolument considérable, qui a permis à l'Abbé Pierre d'organiser des tas de choses, de construire des tas de choses. Mais L'abbé Pierre, auparavant, c'était la création d'Emmaüs, quelques années avant, en 49. Emmaüs, qui à l'origine était une petite bicoque à Neuilly-Plaisance, en région parisienne. Et il avait pour projet d'en faire une auberge de jeunesse internationale. Et puis c'est devenu, par le plus grand des hasards, comme tous les hasards de la vie de l'abbé Pierre qui ont fait de grandes choses finalement, c'est devenu un lieu d'accueil de personnes en grande difficulté, en grande précarité, de personnes à la rue, très clairement. Et ces gens sont devenus petit à petit les compagnons, et ils se sont débrouillés pour faire vivre ce lieu, pour lui trouver des ressources. Ça a été le début de la récupération et de tout ce phénomène qui a entraîné la création de toutes les communautés Emmaüs à travers la France et à travers le monde, puisqu'il y en a un peu partout. Et donc le combat de l'abbé Pierre, c'était d'abord de retrouver une dignité par le travail. Donc le jour où il a fait la manche, il sortait de son rôle habituel et il demandait vraiment de l'aide parce que c'était plus possible, quoi.
D'où son appel
auprès des médias.
Donc déjà un homme qui est au confluent de ce qui se passe. Donc on est dans les années 50, il n'existe évidemment pas Internet, je le rappelle pour nos jeunes amis qui nous écoutent. Mais au-delà de la blague, c'est un homme extrêmement moderne.
Il a en quelque sorte un petit peu inventé la communication humanitaire telle qu'on la connaît et qu'on la pratique aujourd'hui.
Exactement.
C'était de l'interpellation et c'était également... dans la façon dont il présente les choses, une action de sensibilisation telle qu'on les pratique tous, mes confrères, consoeurs et moi, au travers de nos actions dans l'espace public en permanence. Et ça vaut en France, mais ça vaut un peu partout dans le monde.
Alors parlons un petit peu plus de toi maintenant. Tu es là depuis 2007.
Mm-mm.
Dijonais, si j'ai bien compris.
Bourguignon
avant tout, pardon. C'est important les Burgondes. Attention, j'ai de très bons amis qui vivent en Bourgogne. Je salue mon ami Pierre, qui justement n'est pas l'abbé Pierre, mais Pierre Paillard. Pardon, c'était très personnel, mais la Bourgogne est un territoire qui me parle particulièrement.
C'est une bonne chose.
Ton bon cœur te perdra, merci. Donc, Burgonde, Bourguignon, et tu y fais les... Beaux-Arts à Angoulême, donc pas vraiment en Bourgogne, de l'autre côté de la France. Et j'imagine que tu commences le graphisme avant de travailler en agence, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. J'ai choisi les Beaux-Arts d'Angoulême parce qu'on y faisait de la BD et qu'il n'y a qu'à Angoulême qu'on faisait de la BD, c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai eu la chance de rentrer dans cette section-là. Et puis ensuite, de faire la section voisine, publicitaire. Et après cette double expérience, effectivement, j'ai travaillé en agence.
Ok, donc à la base, le crayon dans la main, né avec un crayon dans la main, j'imagine.
Oui, inévitablement.
Inévitablement. Et donc, tu rentres dans la communication, j'imagine, dans le graphisme et dans la création, si je puis dire.
Ouais.
Ok, et comment tu arrives à la Fondation Abbé Pierre ? Parce que je peux comprendre, là, je fais un petit fast forward, mais... Tu travailles en agence, tu m'as dit. Tu es graphiste, au sens le plus noble du terme.
Ouais,
de
DA.
Formation, DA, exactement. Mais comment on arrive à la Fondation Abbé Pierre ? Tu avais un engagement associatif très fort, j'imagine ?
Oui. J'ai croisé un certain nombre d'associations dans ma vie. Je suis passé d'abord de l'agence à la collectivité locale, d'abord comme directeur de la communication, puis comme directeur de cabinet. Pendant 5 ans, donc plutôt la dimension politique des choses, ce qui m'a permis de découvrir un autre versant du futur combat politique que j'allais mener ici. Et après cette expérience politique, d'être recruté à la Fondation Abbé Pierre, effectivement, comme directeur de la communication, quelques mois, quelques semaines même, après la mort de l'abbé Pierre.
D'accord, donc c'est concomitant, et je rappelle à nos auditrices et auditeurs, tu as travaillé en tant que DIRCOM et DIRCAB à Guyancourt.
Oui, c'est ça, dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, exactement. Donc une ville très techno de mémoire, enfin c'est une belle ville, hein, Guyancourt. Hein.
C'est une ville, qui fait partie de ce qu'était une ville nouvelle auparavant, 50 ans en Yvelines, et qui jouxte Versailles, qui touche Versailles.
Exactement, donc un territoire plutôt aisé, j'ai envie de dire.
Plutôt privilégié.
Nous sommes d'accord. Et là, tu passes dans autre chose.
Mm-mm.
Quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après le décès de l'abbé Pierre, tu arrives en tant que directeur communication là-bas directement, ou tu arrives en tant que chargé de com, tu graphies peut-être les...
Non, je suis arrivé effectivement à la direction du service directement.
D'accord. Alors, il existait déjà ou tu as dû le créer ?
Il existait. Il n'existait pas dans l'état actuel, et la communication de la fondation n'existait pas dans l'état actuel. C'est-à-dire que l'abbé Pierre étant toujours là, la direction de la communication, c'était lui, en fait. Il était plus puissant que n'importe quel média, et quand on avait quelque chose à dire, un combat à mener, une information à faire passer, l'abbé Pierre le faisait très bien pour tout le monde. Donc on était un peu sous-doté en termes d'outils, en termes de structure, mais il n'y avait pas besoin, et mes collègues de l'époque faisaient très bien le boulot qu'il y avait à faire. Il se trouve qu'après l'abbé Pierre, on s'est trouvé dépourvu. Il fallait inventer beaucoup de choses. Il fallait prendre la parole énormément pour compenser et pour exister toujours. Il y avait une vraie inquiétude à ce moment-là sur le devenir de la Fondation. L'abbé Pierre n'en avait pas, mais le conseil d'administration de la Fondation, lui, en avait. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance pour relever ce défi-là, quoi.
Comment on t'a appelé ? Tu passes d'une ville favorisée à la fondation, alors c'est pas, non pas que ce soit défavorisé, bien au contraire, même si les publics ne sont évidemment pas les mêmes. Quoique, il y a certainement, tu parlais d'un combat politique, j'imagine que c'est extrêmement politique, et l'abbé Pierre, je le rappelle, a été député, hein.
Oui,
si je dis pas de bêtises. Donc, il connaissait ça. Et si ça s'est aussi vite développé, c'est qu'il avait quelque part, entre guillemets, pardon de résumer ça ainsi, non seulement au-delà du charisme, il avait aussi un carnet d'adresses et des appuis.
Bien sûr.
Dans notre pays, on ne peut pas faire autrement. Comment tu arrives à ça? Parce que, je me dis, on ne peut pas diriger depuis 15 ans la communication de la Fondation Abbé Pierre sans être un homme investi dans la cité, sans être un homme, pour employer un terme très à la mode aujourd'hui, engagé.
Oui, ça je l'ai toujours été, et j'ai milité de nombreuses années avant d'arriver à la Fondation Abbé Pierre. Petite correction sur Guyancourt, c'est une ville populaire, hein. C'est une ville qui est riche parce qu'elle elle abrite de nombreuses grandes entreprises et qu'elle est très dynamique économiquement, mais socialement c'est une ville assez populaire qui compte 50% de logements sociaux dans chacun de ses quartiers.
Autant pour moi.
Donc c'est une ville un peu particulière, mais évidemment elle jouxte Versailles qui a une toute autre sociologie, on est d'accord. Et puis globalement les Yvelines sont plutôt un département extrêmement privilégié, faut bien le reconnaître. Néanmoins, bien sûr que on n'arrive pas par hasard à la Fondation Abbé Pierre. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas parce que cet univers s'est beaucoup professionnalisé. Donc on va chercher, notamment à la direction de la com, on va chercher des professionnels en agence, on va chercher des professionnels dans le privé, on va chercher des gens qui savent faire, et pas des gens qui ont simplement l'envie et la détermination de conduire un combat. Donc il faut des compétences aujourd'hui pour tenir la rampe dans un monde qui, reconnaissons-le, devient extrêmement concurrentiel. Il faut l'accepter tel qu'il est. Donc, on s'est doté d'une équipe très professionnelle, mais il reste un esprit combattant, un esprit d'héritier de l'abbé Pierre, qu'on est encore loin de voir disparaître.
Fort heureusement d'ailleurs, sinon ce serait plus la Fondation Abbé Pierre, ça pourrait être n'importe quelle autre fondation, d'entreprise par exemple.
Absolument.
Ton équipe, c'est combien de personnes aujourd'hui, Yves ?
11.
11 personnes, donc une jolie petite agence.
Petite équipe.
Une jolie petite agence. Je pense à Maverick qui a 8 collaborateurs, tu vois. Je fais toujours le parallèle avec ma structure. Les gens avec lesquels tu travailles, ton équipe, c'est qui ? Ce sont des graphistes, ce sont des community managers, c'est des gens des spécialistes des relations presse ?
Eh bien, on fait un peu tout ça. On a cinq missions, donc des gens spécialisés sur chacune d'entre elles. La première mission, sans ordre d'importance ni de hiérarchie, c'est la gestion des relations presse. On s'occupe également de tout ce qui est événementiel, interne, externe. On s'occupe aussi de toutes les publications, digitales, papier, vidéo. Des relations avec les personnalités, ce qui est un champ qui est un peu spécifique au monde associatif, et des campagnes, évidemment, des grandes campagnes, soit de sensibilisation ou d'appel aux dons.
Une petite question qui me vient à l'esprit immédiatement. Quand on est une association, est-ce que on travaille avec des agences et est-ce qu'elles sont rémunérées, ces agences? Alors, c'est certainement propre à chaque culture de structure, bien évidemment, mais toi, aujourd'hui, tu les payes?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les agences sont sous contrat pour la quasi-totalité d'entre elles. Et elles sont effectivement rétribuées, loin du prix du marché, bien évidemment, mais et un prix qu'on fixe. Donc, on rentre dans le jeu, on n'y rentre pas. Mais quand elles sont là, elles sont rétribuées et ça nous permet, nous, d'être en position de client et en position d'être exigeant vis-à-vis de nos agences et de produire une communication de qualité et surtout une communication qui répond à une stratégie. Quand on travaille en pro bono, donc c'est le contraire, c'est le travail gratuit offert par une agence, ben on dépend de l'agence, on dépend de ses disponibilités, on dépend de sa capacité créative au moment T, et on dépend finalement de sa bonne volonté. Et l'agenda de l'agence n'est pas forcément l'agenda de l'association. Donc, on a trouvé beaucoup plus pratique, beaucoup plus favorable au travail de la fondation de fonctionner comme ça. On se trouve aujourd'hui avec des agences efficaces, du coup, qui répondent à des demandes précises, exigeantes, mais qui font bien leur travail.
Et puis des agences de très haute qualité, puisque la dernière campagne, c'est Fred et Farid.
La dernière campagne, c'est Fred et Farid, avec qui on commence à travailler cette année. Et on est avec eux sous contrat, si tout se passe bien, pendant 4 ans. Et auparavant, on a travaillé avec Altman et Pacro, et précédemment avec l'univers BDDP Unlimited, et notamment BDDP et Fils, pendant des années, avec lesquels on a produit de très grandes campagnes également.
Absolument, je t'avoue que j'ai en tête les campagnes de BDDP et Fils, où il y avait déjà Olivier Altman.
Absolument.
Et on salue Olivier, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans le décodeur de la communication en juin dernier. Et je crois qu'il est extrêmement attaché encore à la Fondation Abbé Pierre. Ça, je pensais qu'il travaillait encore avec vous. Et finalement, il dit non, finalement, c'est passé dans une autre agence. Et j'ai senti une petite larme à l'œil, donc ça veut dire qu'il y était très, 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 très attaché. Mais c'est le jeu du marché.
Ouais, on s'est séparés, mais on s'est séparés en très bons termes. Et on reste en contact. Oui, c'est effectivement l'univers BDDP duquel on a été très proche et duquel on reste très proche, effectivement. Mais Fred et Farid a aussi des qualités intrinsèques importantes. Et a su se montrer convaincante lors de l'appel d'offres. Donc on travaille avec eux, on a sorti une première campagne qui nous satisfait beaucoup, et on espère faire encore mieux la prochaine fois, comme on le dit communément.
Alors la campagne dit « Il y a une vie après la rue ».
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que Virginie n'en veut pas à ses voisins. Avant, c'était le froid qui l'a réveillée. Et on voit une jeune femme sur une des affiches qui, avec un réveil à 3h46, où elle est en train de sourire. Donc, elle est réveillée par les voisins qui font soit la teuf ou autre chose. Et finalement, elle se dit, c'est pas grand chose à côté du froid qui me pique et qui me mord et qui me tue. Ça fait bientôt 30 ans. Enfin, en 2022, vous serez reconnu d'utilité publique depuis 30 ans. 30 ans de combat, c'est difficile quelque part de faire des nouvelles campagnes, de se renouveler. Comment tu arrives à gérer ça depuis 15 ans, toi ?
On s'adapte toujours au contexte, dans lequel on évolue. C'est-à-dire que chaque année, il se passe des choses différentes. Chaque année, la société vit différemment. Et chaque année, on lui parle avec les mots de l'époque et avec les problématiques de l'époque. En 2018 notamment, on a fait une campagne qui prenait la parole notamment sur le problème des migrants, parce que les migrants par nature sont à la rue, et en tout cas le phénomène actuel, et il nous fallait, c'était impossible en tant qu'héritier de l'abbé Pierre de pas prendre la parole sur un sujet aussi important. Donc c'était un sujet conjoncturel. Hélas, c'est toujours un problème, mais c'était extrêmement conjoncturel et aujourd'hui, on évolue comme ça au gré de ce que la société nous propose et auquel on doit s'atteler, parce que le combat, il passe par la société telle qu'elle est, pas celle dont on rêve.
Hélas, oui.
Regarde, les Restos du Cœur existent depuis 35 ans. C'était destiné à être très éphémère.
Ça ne devait durer qu'un hiver, en ce qui concerne les Restos du Cœur. D'ailleurs, à la fin de la première campagne, il y avait un reliquat de dons et Coluche est allé l'offrir à l'abbé Pierre.
La boucle est
bouclée. Une photo de ce moment magique, puisque ça a été leur dernière rencontre. Coluche est mort peu de temps après.
Oui, en juin 86.
Absolument, et c'est l'abbé Pierre qui l'a enterré.
Écoute, je ne le savais pas, donc à cause d'un putain de camion, comme disait Renaud. Tu es un homme de combat. Je suis désolé de te poser une question aussi brutale, sans argumentation particulière, mais je sens en toi un combattant. Alors pas au sens guerrier du terme, mais la politique, tu connais. Tu sais ce que c'est, parce que tu as été dire comme et dire cap pendant 5 ans à Guyancourt. Et autant pour moi, je pensais que c'était une ville riche, et tu me dis qu'il y a 50% de HLM, donc tout est dit, j'ai envie de te dire. Est-ce que pour être DIRCOM à la Fondation Abbé Pierre, il faut être un combattant ou un homme engagé?
Pour faire de la communication, il faut être un combattant. La communication, c'est l'art de convaincre. Donc il faut s'accrocher. Il faut aussi souvent affronter des univers qui nous contestent ou ne nous reconnaissent pas la légitimité à communiquer au nom de tous. C'est toujours une grande complexité, quel que soit l'univers dans lequel on passe. Donc il faut être un combattant pour être un communicant, ça c'est clair. Après, on n'est pas nécessairement un militant si on est un communicant, mais un combattant à coup sûr, ouais.
Je rebondis sur ce que tu me dis. Tu es la première personne à me parler de combat. Il y a des gens comme Frédéric Fougerat, qui travaille à la communication et à la RSE de Foncia, que tu connais certainement, qui disent, à très juste titre, la communication, c'est un métier. Je dirais même que ce sont des métiers, parce qu'on n'est pas graphiste comme on est community manager, comme on est responsable des relations de presse, ou d'événementiel, ou lobbyiste. Justement, nos métiers ont été finalement...
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Absolument, absolument. Nos métiers, bizarrement, grâce à Covid, si je puis dire, ont été vachement revalorisés parce qu'on s'est aperçu que la communication, dans cette période abominable que nous vivons depuis 2 ans, et je ne parle même pas des gens qui sont à la rue, où là c'est encore pire pour eux, nos métiers ont été revalorisés parce qu'on s'est aperçu qu'ils servaient à quelque chose finalement. Quel regard tu portes là-dessus sur la revalorisation, je vais y arriver, notre métier depuis 2 ans à peu près?
J'ai peur que ce soit conjoncturel. C'est-à-dire que la communication est un acte tellement simple que chacun estime pouvoir détenir ce pouvoir-là. Alors que c'est une complexité emplie de techniques, emplie de contradictions, emplie de multiples attentions à tous les effets des signaux qu'on émet. Donc c'est ça qui est souvent pas compris dans la communication et qui laissera certainement à terme le retour des critiques très injustes sur c'est que de la com, alors que c'est déjà de la com, c'est beaucoup.
Absolument. Tu parlais de combat politique, enfin de politique, pardon. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu es forcément, en tant que DIRCOM, de cette très belle institution, tu rencontres des politiques, j'imagine.
Oui, on est en confrontation et en construction, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, avec le monde politique, absolument.
Tu viens d'employer un terme confrontation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça clash, alors c'est peut-être un mot un peu fort, mais il y a encore des rugosités et des incompréhensions.
Oui, bien sûr. Le monde politique, la puissance publique, de toute façon, a des limites. Et les limites qu'elle n'a pas, quelquefois, elle se les donne. Le monde du logement est une grande complexité. Le combat contre le mal-logement est d'une grande complexité. En plus, il n'est pas rentable électoralement parlant, puisque le logement, c'est long. Donc, on est, nous, soumis, effectivement, à rappeler aux politiques l'importance d'un logement digne et décent pour chacun. Et on le rappelle depuis 30 ans, et il faudra encore certainement au moins 30 ans pour qu'on en vienne à bout. Mais la confrontation, effectivement, est évidente. Mais ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de mener des opérations, des actions sur le terrain, avec des collectivités, avec les mêmes élus, qui peuvent être amenés à débattre assez violemment avec nous. Mais le débat n'empêche pas le travail en commun.
J'imagine, et là, ton expérience de DIRCAP, DIRCOM pendant 5 ans doit te servir encore au quotidien, 15 ans après.
partout où on fait de la communication, on fait de la politique finalement. Mais encore davantage dans un univers comme le nôtre. C'est encore plus clair parce qu'on est en contact direct avec le politique. Mais la communication, c'est du discours. Et le discours, c'est l'inscription dans la cité. Et la cité, c'est de la politique.
Nous sommes d'accord. Notre jeunesse depuis 2 ans souffre particulièrement. Covid, tu sais ce que c'est, tu es papa, tu as un fiston qui est en école de graphisme. Justement, quel conseil tu donnes à un jeune qui veut se lancer, Yves, dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital ?
Déjà de le faire, parce que c'est des métiers passionnants. De le faire avec beaucoup de détermination, parce que c'est des métiers éreintants. Mais de le faire avec passion, parce que c'est des métiers qui permettent un développement personnel complètement dingue. On a la chance, quand on fait partie d'une équipe de communication comme celle de la Fondation, mais c'est valable dans bien des endroits, on a la chance de voir le résultat de notre travail partout dans le pays, sur les murs, dans les télés, sur les téléphones, etc. Et c'est une satisfaction personnelle que de créer pendant des mois des outils avec la volonté qu'ils soient convaincants et de les voir on air, comme on dit, le jour venu. C'est une grande satisfaction. On voit immédiatement à quoi on sert et on voit immédiatement le résultat de nos efforts. Donc c'est passionnant. C'est la reconnaissance de fait est là. Quelquefois c'est difficile parce que le public peut être certains publics en confrontation avec ce qu'on peut dire. Quand on prend des positions, de toute façon, quand on fait de la communication, on est toujours soumis à ces difficultés-là et aujourd'hui davantage encore avec le social media. Mais il faut accepter ce principe. Ça fait partie du métier. Et le métier je ne peux que le conseiller. Le métier est tellement offre tellement de variété, tellement de créativité, tellement de champs d'applications différents, de façons de raconter des histoires, de montrer des gens, d'organiser des événements. On est la Fondation Abbé Pierre, mais on organise des concerts de rap, donc tout est toujours possible dans la communication.
Et puis, il y a des choses absolument magnifiques. J'ai vu Blanche Gardin dernièrement sur les réseaux sociaux.
Absolument.
Qui a fait même quelque chose avec Combini ou Brut, je ne me rappelle
plus. Avec Combini.
Autant pour moi, désolé pour l'équipe de Brut et de Combini, bien évidemment, et pour toi aussi. Donc avec l'équipe de Combini, on est allé se balader dans un... On appelle ça quoi? Un bidonville aujourd'hui?
On appelle ça un bidonville, hélas, oui. Les bidonvilles avaient disparu du pays, ils sont revenus. C'est pas une bonne nouvelle. Effectivement, on a fait ce travail avec Blanche de manière à porter la lumière sur ce type de problématiques qui sont souvent ignorées. On a fait d'autres sujets avec Blanche et on en fera un prochain dans quelques jours, destiné à sortir soit en toute fin d'année, soit en début d'année 2022.
Entendu. J'ai 3 dernières questions à te poser. La première. Qu'est-ce qui te révolte en 2022 ?
Ce qui me révolte et ce contre quoi on essaie de lutter, nous, à la Fondation, c'est l'atmosphère du pays. L'atmosphère, en général, du pays et au-delà. On est dans une situation de tension extrêmement forte où on oublie, finalement, un certain nombre de fondamentaux auquel il faudrait qu'on s'accroche aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'après une crise telle qu'on l'a vécue, lorsque les amortisseurs sociaux vont s'arrêter, les publics en difficulté le seront encore davantage. C'est-à-dire qu'on s'attend à des lendemains qui déchantent, et la campagne qu'on vit à l'heure actuelle, on n'est pas officiellement dedans, mais on la voit déjà à l'œuvre, prend des tours un peu particuliers, et en tout cas très éloigné des problématiques qui nous semblent les plus urgentes, comme la grande pauvreté, la précarité, la faim. On a découvert la faim dans notre pays à nouveau lors de la crise du Covid.
Avec les étudiants qui avaient rien avec.
Avec les étudiants, avec les personnes à la rue, avec tant d'autres, avec des personnes âgées, etc. Ça c'est révoltant. Et nous, on essaie de porter, à contre-courant de cette ambiance délétère, on essaie de porter des messages positifs de manière à faire comprendre à tout le monde que Ben, c'est possible. Il suffit de pas grand chose pour que ce soit possible. L'abbé Pierre a eu cette chance toute sa vie, c'est en tout cas comme ça qu'il le disait, c'est d'avoir répondu au hasard qui se présentait. Et il estime n'avoir fait que ça. Il a laissé une œuvre considérable, mais il estime qu'elle est venue à lui, que les problèmes sont venus à lui et qu'il n'a pas refusé de les affronter. Et ainsi, il a laissé un héritage considérable. Mais c'était un petit bonhomme malingre qui a souffert de pathologies toute sa vie, qui était souvent en cure pendant des mois parce que il n'avait aucune résistance à rien. Il avait juste son énergie pour se battre et il s'est battu avec ça. C'est-à-dire qu'il partait pas gagnant pour être un héros. Et pourtant, ça a été lui aussi un combattant remarquable toute sa vie. Donc tout est possible. Tout le monde peut changer le monde.
À l'inverse, qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui et particulièrement dans ton métier ?
Je kiffe la possibilité de s'adresser quasiment au monde entier en quelques secondes. Ça, c'est une évolution. Donc on parle de révolution. Je pense que c'est une évolution importante. On a connu à travers les siècles l'apparition de médias, nouveaux médias. Ça a commencé par Gutenberg et puis c'est aujourd'hui le digital, mais finalement les médias se sont sédimentés les uns après les autres pour nous offrir aujourd'hui, nous aux professionnels de la com, ce qu'on appelle le 360, c'est-à-dire une grande variété, une extrême variété de canaux différents pour aller toucher les publics qu'on veut toucher.
On vit une époque formidable en tant que communicant, contraignante, astreignante, tout va trop vite, mais quel kiff.
On peut le dire comme ça, ouais.
C'est absolument génial. Les changements extrêmement brutaux et rapides sont en fait de magnifiques opportunités pour que nous, en tant qu'êtres humains, nous puissions progresser, je trouve.
Absolument.
Et ça doit pas être vécu comme un fardeau ou quelque chose de lourd à porter, bien au contraire.
Bien sûr que non.
C'est ça qui est magnifique. J'ai une dernière question et pas des moindres. Yves, comment on peut faire un don à la Fondation Abbé Pierre?
On a plusieurs façons de faire un don. Ça peut être par SMS, ça peut être en allant sur le site. C'est assez simple. Hein. Et en ce moment, on dispose de tous les outils pour le faire puisque on a une campagne qui est en digital, qui est en affichage. Donc c'est très très simple de donner à la fondation et donner un euro suffit. C'est-à-dire qu'avec un euro, on fait déjà beaucoup de choses. Il faut être conscient de ça. C'est pas l'importance du don qui fait son importance matérielle et ses effets. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Et puis on a vu pendant la période du Covid où de nouveaux publics se sont mobilisés pour donner que des jeunes qui sont très nombreux à donner peu, au final, ça fait des moyens considérables pour aider les sans-abri.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit.
Exactement.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en période de recrutement de bénévoles, peut-être ?
On l'est toujours un peu, mais plus particulièrement en hiver, bien sûr. Parce qu'en hiver, tout le monde comprend que le logement digne et décent, c'est important, que c'est un lieu de ressourcement, que c'est un lieu de, normalement, d'apaisement, et c'est pas toujours le cas. Donc, bien sûr qu'on est en campagne, bien sûr qu'on a besoin de la solidarité et de la fraternité de nos concitoyens, c'est une évidence.
Une petite question me vient à l'esprit, c'est vraiment ma dernière cette fois-ci, est-ce que tu as rencontré l'abbé Pierre ?
Eh non.
Ah, merde.
Et non, à quelques semaines près, j'ai pas rencontré l'abbé Pierre.
Et forcément. Mais en tout cas, il vit encore parce que, alors, on est dans ton bureau. Il y a un super t-shirt avec la tête de l'abbé Pierre. Alors, c'est Agnès B, je crois, si je dis pas de bêtises.
Absolument.
Hein. Donc, on peut la saluer. Alors, elle n'est pas bourguignonne, Agnès B, elle est bretonne.
Agnès B est versaillaise, même. Elle a vécu, elle a grandi, elle a fait ses études, elle vit toujours à Versailles.
Ah, je pensais qu'elle était bretonne, mais
peut-être des origines bretonnes, ça je l'ignore, mais en tout cas elle est versaillaise et c'est un soutien actif de la fondation depuis longtemps.
Eh ben, on ne peut que la féliciter. J'ai eu le plaisir de la croiser dans un de mes bars favoris à Paris. C'est une femme absolument charmante et qui n'a pas du tout la grosse tête.
Ah, certainement pas, non. Mais elle a rencontré l'abbé Pierre.
La vénarde. Eh bien, Yves, c'est sur ces bonnes paroles entre la mode, entre la Bourgogne, Versailles, peut-être la Bretagne pour Agnès B. et l'abbé Pierre, alors auquel on fait un petit salut qui doit nous regarder de là où il se trouve depuis quelques années. En tout cas, je tenais à te remercier pour ton accueil. J'ai été super bien accueilli ici.
Merci infiniment.
C'est tout à fait sincère, je t'en prie. Et vous, chers auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie d'entendre des personnalités aussi inspirantes que Yves, eh bien vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Oh oui, nous sommes un féodé. Aujourd'hui au GAFA, c'est pas la peine de se battre contre eux, ils ont déjà gagné. Donc mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, mettez un petit commentaire, ça nous enverra quoi ? De l'amour.
Merci à toi Yves, c'était génial.
Merci.
Ciao, ciao.